VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manilakis à la présentation de cette édition du jeudi 10 février 2022. Voici d'abord le sommaire. Au Burkina, le Conseil constitutionnel déclare le lieutenant-colonel Damiba président du Faso et sera investi mercredi. Le Bénin subit une nouvelle attaque attribuée à des djihadistes. 5 gardes forestiers et un soldat ont été tués dans une nouvelle embuscade dans le nord du pays. En Libye, le Parlement de Tobrouk défile au gouvernement et nomme un nouveau Premier ministre pour remplacer Abdelhamid Bayiba qui refuse de céder le pouvoir. La Russie lance des manœuvres militaires au Bélarus en pleine crise avec l'Ukraine. Dans des minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord, les nouvelles du monde. Au Burkina Faso, le chef de la junte, le colonel Paul-Henri Damiba, a été déclaré président par le Conseil constitutionnel devant lequel il doit prêter serment mercredi. Nathalie Barge.
Le Conseil constitutionnel a indiqué que Paul-Henri Damiba, président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, est le président du Burkina Faso. Cette décision en suit une autre, ayant constaté la vacance de la présidence du Faso après la démission forcée le 24 janvier du président renversé Roch Marc Christian Kabore. La date de la prestation de serment sera fixée d'un commun accord entre la présidence et le Conseil constitutionnel. La CEDEAO et l'Union africaine ont suspendu le Burkina Faso, demandant à la junte un calendrier raisonnable pour le retour à l'ordre constitutionnel. Samedi, M. Damiba a annoncé la création d'une commission pour élaborer un projet de charte et d'agenda assorti d'une proposition de durée de la transition et des modalités de mise en œuvre dans un délai de 2 semaines. Hier, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est déclaré préoccupé par le changement inconstitutionnel du gouvernement au Burkina Faso dans une déclaration unanime qui n'utilise pas le terme de coup d'État militaire.
Le Bénin a été une nouvelle fois attaqué par des présumés terroristes. Une embuscade a coûté la vie à 5 rangers et un soldat dans le parc du W frontalier au Niger et au Burkina Faso. Le gouvernement a convoqué un conseil des ministres extraordinaire pour se pencher sur la question. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
La menace terroriste est encore très présente au Bénin, surtout dans le département de la Liborie, à quelques 630 km de Cotonou. Une embuscade à l'intérieur du parc du W dans la commune de Karimama a coûté la vie à 5 rangers employés par African Pax, une ONG sud-africaine qui gère les parcs béninois. Un soldat a également perdu la vie et il y a une dizaine de blessés. Des renforts militaires ont été déployés pour sécuriser la zone attaquée. Le gouvernement a tenu ce jeudi un conseil extraordinaire des ministres américains. Rien à filtrer à l'issue de cette réunion. Depuis décembre 2021, les attaques se sont multipliées contre les positions de l'armée béninoise à la frontière avec le Burkina Faso. Pas moins de 3 attaques ont fait des morts de part et d'autre, rien que dans le département de l'Atakora. Ces attaques, il faut le rappeler, n'ont jamais été revendiquées. De Cotonou, Ginette Fleur dans les VOA Afrique.
La Cour pénale internationale a indiqué jeudi avoir rejeté une demande d'indemnisation déposée par Charles Blé Goudé, qui avait été détenu à La Haye avant d'être acquitté en même temps que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Monsieur Blé Goudé avait ensuite déposé en septembre une demande d'indemnisation devant la CPI, estimant avoir été victime d'une erreur judiciaire grave et manifeste. Il réclamait près de 820 000 euros. Monsieur Gbagbo n'a de son côté déposé aucune demande à ce sujet.
Human Rights Watch accuse le Cameroun d'avoir commis de graves violations des droits humains sur des dizaines de ses ressortissants expulsés des États-Unis. L'ONG affirme aussi que Washington a violé le droit de ses réfugiés en renvoyant ses demandeurs d'asile dans leur pays. L'Ouganda a estimé jeudi injuste et erroné le jugement de la Cour internationale de justice, lui ordonnant de verser 325 millions de dollars de dommages et intérêts à la RDC pour son invasion de l'Est du pays il y a 2 décennies. Cette somme fixée mercredi par la plus haute juridiction de l'ONU et reste loin des 11 milliards de dollars réclamés par Kinshasa. En Libye, le Parlement a désigné aujourd'hui l'ex-ministre de l'Intérieur Fatih Bachaga pour remplacer Abdelhamid Bihiba à la tête du gouvernement. La désignation de Fatih Bachaga est intervenue lors d'un vote controversé susceptible d'exacerber les luttes de pouvoir en Libye. Les précisions de Jean-Roger Bion.
D'après le porte-parole du Parlement basé à Tobrouk dans l'est de la Libye, le vote s'est fait à l'unanimité en faveur de Fatih Bachaga comme chef du gouvernement. Le Parlement avait retenu après un appel à candidature, deux prétendants sur un total de 7. M. Bachaga, 59 ans, et l'outsider Khaled Al-Bibas, 51 ans, un ancien haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Le président du Parlement, Aguila Saleh, a par la suite affirmé que M. Bibas avait retiré sa candidature, laissant M. Bachaga seul en lice. Ces dernières semaines, Abdelhamid Bihiba a pourtant fait savoir qu'il ne céderait le pouvoir qu'à un gouvernement sorti des urnes, critiquant les intentions du Parlement. Son véhicule a essuyé des tirs la nuit dernière à Tripoli. Il revenait de la place des Martyrs dans la capitale, où il s'est offert un bain de foule au milieu de dizaines de ses partisans rassemblés sur la vaste esplanade.
L'ONU continue de soutenir Abdelhamid Bihiba comme premier ministre intérimaire en Libye, a déclaré aujourd'hui le porte-parole de l'organisation Stéphane Dujarric. Les dirigeants libyens doivent s'unir pour se mettre d'accord ou se remettre d'accord sur la voie à suivre, a-t-il ajouté. Quelques centaines de magistrats et d'avocats ont manifesté jeudi sur les marches du palais de justice à Tunis pour protester contre la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature par le président Kais Saied. Plus de 200 manifestants se sont aussi rassemblés en soutien à une grève observée hier et aujourd'hui par les magistrats tunisiens, des ONG locales et internationales, ainsi que des représentants politiques occidentaux ont critiqué la décision du président Kais Saied de dissoudre ce conseil. Des milliers de manifestants se sont mobilisés jeudi à travers le Soudan contre le pouvoir militaire après l'arrestation de figures du pouvoir civil démis lors du coup d'État d'octobre. Les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes sur ceux qui tentaient de s'approcher du palais présidentiel où siège le chef de l'armée, le général Bourhan.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un nouvel axe frontalier entre le Canada et les États-Unis est bloqué par des manifestants opposés aux mesures sanitaires, a indiqué aujourd'hui la police du Manitoba dans le centre du Canada, 4 jours après le blocage du pont Ambassador en Ontario. Une manifestation impliquant un grand nombre de véhicules et d'équipements agricoles bloque le port d'entrée d'Emerson qui relie le Manitoba au Dakota du Nord, a-t-elle dit sur Twitter. Aucune circulation n'est possible, que ce soit en direction du nord ou du sud. Les armées russes et belarusses lancent de grandes manœuvres aux portes de l'Ukraine alors que se poursuivent d'intenses efforts diplomatiques pour désamorcer la crise entre Moscou et les Occidentaux. Jacques Aristide.
Le déploiement belarusse a été immédiatement critiqué par Kiev comme un moyen de pression psychologique employé par Moscou, qui a par ailleurs massé depuis novembre plus de 100 000 militaires près de sa propre frontière avec l'Ukraine. Paris dit regretter un geste d'une grande violence. L'OTAN parle de moments dangereux pour la sécurité en Europe. En visite dans la capitale russe, la chef de la diplomatie britannique, Liz Truss, a enjoint au Kremlin d'écarter ses troupes des frontières de l'Ukraine pour entamer une désescalade. Son homologue russe Sergueï Lavrov a lui jugé incompréhensible l'inquiétude des Occidentaux autour des manœuvres au Bélarus. La Russie est accusée de préparer une nouvelle opération militaire contre l'Ukraine, des accusations rejetées par le Kremlin qui affirme vouloir assurer sa sécurité face à l'hostilité de Kiev et de l'OTAN. Sur le front diplomatique, le chancelier allemand Olaf Scholz reçoit à Berlin aujourd'hui les dirigeants des pays baltes, devenu membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Pour sa part, le Premier ministre britannique Boris Johnson rencontre à Bruxelles des responsables de l'OTAN avant de se rendre à Varsovie.
Le chef d'état-major américain, le général McMilly, a eu un rare entretien téléphonique aujourd'hui avec son homologue belarusse, le général Viktor Gulevich, afin de prévenir l'éventualité d'incidents malencontreux. Ils ont aussi échangé des perspectives sur la sécurité européenne actuelle, a précisé le porte-parole du général Milley, le colonel Dave Butler, dans un bref communiqué. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez Rosine Munezero pour la Minute Éco.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé jeudi à Dakar que l'Europe comptait mobiliser plus de 150 milliards d'euros d'investissement en Afrique dans les prochaines années. C'est le tout premier plan régional sous Global Gateway, a-t-elle dit devant la presse. Cette initiative européenne qui a été lancée en décembre veut mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros de fonds publics et privés d'ici à 2027 dans des projets d'infrastructure. L'Angola a recouvré plus de 11 milliards d'euros de biens publics détournés dans des affaires de corruption et dissimulés dans plusieurs pays. C'est ce qu'a déclaré jeudi le ministre de la Justice aux médias d'État. Des poursuites sont menées dans 715 affaires de corruption, fraude, détournement de fonds et autres délits financiers, a-t-il ajouté. L'inflation a continué à s'accélérer en janvier aux États-Unis pour atteindre 7,5% sur un an, son rythme le plus rapide depuis près de 40 ans et plus qu'attendu, mais la hausse des prix reste toutefois stable sur un mois. Le département du travail attribue cette nouvelle accélération notamment au prix de l'alimentation, de l'électricité et du logement. Cette flambée est aussi attribuée aux facteurs liés à la pandémie, dont des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, des pénuries de composants et des pénuries de main-d'œuvre.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, avec vous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le Sénégal reste sur le toit de l'Afrique au classement FIFA du mois. Le tout nouveau champion d'Afrique gagne deux places au classement mondial, occupant un historique 18e rang. Toujours sur le continent, le Maroc conserve sa deuxième place. Et comme il fallait s'y attendre, l'Algérie, éliminée au premier tour de la CAN 2021, est éjectée du podium pour se retrouver à la 7e place. Le Nigeria est 3e, suivi de l'Égypte 4e. Et de la Tunisie qui referme le top 5 du classement zone Afrique. Le Burkina Faso occupe la 10e place. Et parlant justement des étalons, le Burkina, 4e à la dernière CAN, affronte la Belgique, première nation au classement FIFA, le 29 mars prochain, un match amical au Lotto Park d'Anderlecht. L'annonce est faite par la Fédération belge du football. Lors d'une préparation pour une Coupe du Monde, il est toujours bon de jouer contre des pays d'autres continents. Fort de sa demi-finale lors de la Coupe d'Afrique, le Burkina Faso a d'ores et déjà démontré qu'il constituera un adversaire intéressant pour les Diables Rouges, explique Roberto Martinez, sélectionneur des Diables Rouges. Des nouvelles des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, début raté pour le Nigeria qui fait ses tout premiers pas en ski de fond. Hier, Samuel Ipefane, qui représente la nation la plus peuplée d'Afrique, a fini 73e sur 88. Il rentre tout de même dans l'histoire de son pays comme étant le premier skieur nigérien à prendre part aux Jeux Olympiques d'hiver. De son côté, l'Allemagne réussit le carton plein en conservant son titre olympique en relais par équipe mixte en luge. Les Allemands ont raflé les quatre titres mis en jeu comme au JO 2014. Leur chef de file, Nathalie Geisenberger, devient la lugeuse la plus titrée de l'histoire avec 7 médailles, dont 6 en or et une en bronze devant l'Italien Armin Zogler qui en avait remporté 6 de 1994 à 2014. L'Allemagne prend la tête du classement des médailles avec 6 médailles d'or au total devant la Norvège, 5 titres. Ici, en NBA, Utah stoppe à 9 la série victorieuse de Golden State 111-85. Résultat, le deuxième à l'ouest concède un premier revers en 10 matchs qui permet indirectement à Phoenix d'être un leader un peu plus intouchable. Deux jours après la gifle reçue à domicile face aux champions en titre Milwaukee, les Lakers ont mieux résisté mais encore cédé à Portland 107-105. À l'est, les Bulls se sont imposés 121-109 chez les Hornets. À Cleveland, les Cavaliers ont gagné 115-92 contre San Antonio. Équipe en forme, Toronto, 6e à l'Est, a ramené une 7e victoire consécutive d'Oklahoma City, 117-98, en s'appuyant notamment sur le Camerounais Pascal Siakam. 27 points, 16 rebonds et 5 passes décisives.
C'était les sports de Yakuba Ouédraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila-Kizado retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Mali, le cadre des partis politiques dénonce les agissements des autorités de transition et invite à une organisation rapide des élections. Résolution prise à l'issue de son atelier organisé hier mercredi à Bamako, Mohamed Danioko nous fait le point.
Après son refus de prendre part aux assises nationales de la Refondation, le cadre des partis politiques pour une transition réussie s'oppose maintenant à la relecture en cours de la charte de la transition au niveau du Conseil national de transition. Ce cadre propose un chronogramme ne dépassant pas 9 mois et une nouvelle transition conduite par des acteurs neutres. Dr Modibo Soumaré est président du cadre.
Nous avons dit à partir du 25 mars... À partir du 25 mars, il n'y a plus d'organe de la transition. On tombe dans un vide juridique. Et pour résoudre cela, nous proposons un chronogramme. Premier axe. Deuxième axe, nous allons rassembler l'ensemble des forces vives de la nation pour proposer des nouveaux organes de la transition. Parce que nous appelons à une transition neutre, un gouvernement neutre avec un premier ministre non clivant.
Dans ses recommandations, le cadre appelle les autorités de la transition à faire de l'organisation des élections la priorité des priorités. Amadou Koïta est membre de cette coalition.
Le retour à l'ordre constitutionnel, tout simplement, c'est de créer les conditions pour que les Maliens puissent choisir leur futur dirigeant. Nous ne sommes plus au XXe siècle, nous sommes au XXIe siècle. L'avènement de la démocratie a été un combat âprement mené par le peuple malien.
Au moment où le cadre appelle à l'organisation des élections, le gouvernement annonce l'ouverture de dialogue avec la CEDEAO en vue de trouver un consensus autour du chronogramme. Une initiative saluée à demi-mot. Amadou Koïta et Issa Kaoudjim, un ancien vice-président du CNT, réagissent.
Malheureusement, on a eu tort d'avoir raison. Nous avons toujours dit qu'il faut aller à la négociation, qu'il faut éviter les bras de fer avec la communauté internationale et la CEDEAO. On m'a mis en prison.
C'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'ouvrir le dialogue avec la communauté internationale. Mais ce serait encore mieux d'ouvrir le dialogue avec les Maliens. Avec les Maliens, puisqu'il faut un consensus national d'abord. Il faut un compromis entre nous, acteurs maliens. Que nous, Maliens, nous nous mettons d'accord, que nous, Maliens, nous interrogeons notre génie.
Enfin, le cadre des partis politiques pour une transition réussie recommande la mise en place d'un nouveau Conseil national de transition, actuellement dirigé par le colonel Malick Diaw, qui est un acteur du coup d'État du 18 août 2020. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez branché 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a reçu aujourd'hui à N'Djamena les responsables de la coordination des actions citoyennes Wakit Tama, qui s'opposent aux pratiques de la junte militaire à la tête de la transition. Ils ont discuté des conditions de l'organisation d'un dialogue sincère et inclusif. André Kodmajingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
L'équipe de Wakit Tama a abordé avec le chef de la junte, le général Mahamat Idriss Déby, la question de la souveraineté et de l'inclusivité du dialogue national pour avoir une participation équilibrée et des thématiques au cours de cette rencontre. Dr Sitak Yombatina Beni est le vice-président du parti Les Transformateurs.
Premièrement, qu'un acte consacre de manière explicite le caractère inclusif. Que dans ce texte-là, on dise que clairement aussi, il s'engage à ne plus être joueur et arbitre. Ensuite, il faut que dans ce texte-là également, on introduise la question de l'inamovibilité des personnes et des personnalités qui vont être retenues à l'issue du dialogue, pour qu'une fois au moins, que ces personnes puissent gérer la transition jusqu'aux élections. Il fallait, dans ce texte-là également, introduire la question, n'est-ce pas, de la Constitution, là, que la Constitution va être soumise au référendum. Le PCMT et même tous ceux que nous avons rencontrés nous ont dit clairement que le CNT actuellement ne jouit d'aucune légitimité. Elle n'est même pas représentative. Et donc, Par conséquent, elle ne peut même pas adopter, n'est-ce pas, un texte comme la Constitution et les textes également subséquents. Donc nous voulons, n'est-ce pas, que cette question-là soit inscrite pour qu'elle soit au référendum.
L'activiste Yasrabi Kimasum Ilmir, alias Raïsikim, rappeur slammer, se réjouit du rapprochement des leaders de Wakitama avec les autorités de transition.
Nous avons longtemps fait des propositions, mais l'on nous a toujours mis sur le banc des jusqu'aux boutistes. Et si aujourd'hui, ils sont revenus à des bons sentiments et qu'ils décident de parler avec Wakitama, ils ont toujours diabolisé. C'est une très belle chose.
Pour le porte-parole de la coordination des actions citoyennes Wakitama, Maître Max Loalgar, le président du conseil militaire de transition et son staff ont été réceptifs à leurs préoccupations, mais aucune promesse n'a été faite.
Nous n'avions pris aucun engagement d'aller au dialogue, mais c'est un contact qui a été noué et nous avons pris l'engagement que ce contact reste. Avec le secrétariat général de la présidence, nous allons échanger en espérant que nous trouverons des points d'accord qui permettent notre participation au dialogue que nous voulons inclusif et souverain.
Voici ce que pense le porte-parole de la Convention des organisations politiques, Sali Boukarba, un regroupement des partis politiques de l'opposition.
J'ai cru comprendre que les amis de Wakitama ont exposé leur vue, mais de l'autre côté, nous n'avons pas enregistré de réponse. C'est des positions qui ont été exprimées depuis de longs mois et devraient avoir des réponses immédiates du président du CMT. Je ne comprends pas pourquoi ces questions ont été renvoyées au secrétariat général de la présidence. Là, il faut craindre qu'il y ait enlisement alors que le temps presse.
Des questions liées à la liberté fondamentale bafouées par le service de sécurité ont été également évoquées avec le chef de la junte, selon Dr Sita Kiyumbatina Beni.
Nous avons dit également, il faut arrêter avec ça. Nous sommes dans la transition, nous allons avoir la champagne des libertés fondamentales. Au dialogue, on va définir nous-mêmes les contours et tout ça pour installer définitivement le Tchad dans un état de droit.
Par ailleurs, la coordination des actions citoyennes Wakitama programme une marche pacifique le 12 février, un moyen de pression pour faire bouger les lits. Mais la manifestation n'est pas encore autorisé. André Kordoumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Depuis plusieurs semaines, se procurer du sucre au Burundi devient une gymnastique difficile. Il est devenu une denrée rare qui coûte même le triple au marché noir. Pourtant, la société sucrière de Kumoso, au sud du pays, produit la quantité nécessaire selon les responsables burundais. Les uns parlent de spéculation qui bat son plein pour ce produit dont la population est friande. Reportage de Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
Les différents quartiers de la capitale économique du Burundi et des montagnes qui surplombent la ville Bujumbura manquent cruellement de sucre pour son usage au quotidien. Supermarchés et boutiques n'ont pas vu les sacs de sucre sur leurs étagères depuis plusieurs mois. Cette jeune fille qui va terminer cette année son école secondaire indique que beaucoup de jeunes ont besoin de sucre.
Ça fait 3 jours que je pars à l'école sans boire du thé et c'est un problème à la maison parce que moi je suis grande, je peux supporter ça, mais mes petits frères et sœurs c'est encore plus dur. Et donc maman elle est obligée d'acheter des jus avec des beignets pour manger avec. Je pourrais demander qu'ils fassent des efforts pour amener du sucre et donc j'aimerais bien qu'on ait les moyens d'avoir le sucre, c'est facile. Il y a ce sumo qui travaille en fait, on a besoin de ça.
Jackson Niyonzima, père de 3 enfants, ne cache pas sa peine car la valeur du sucre vaut actuellement plus que l'or.
Ça me dépasse du moment que hier j'ai parcouru pas mal des shops de Bujumbura, alimentation qu'on appelle comme le Majingistar, et dans des boutiques, j'ai pas trouvé aucun kilo. Là où je suis arrivé, j'ai trouvé où on vendait une cuillère à 100 francs. J'ai acheté un sucre de 1000 francs, c'est même pas un quart d'un kilo. Pour la famille, c'est un problème parce que on a de petits enfants et ils ont besoin de ce sucre. Je ne parviens pas à comprendre parce que les agents de la Sosumo, quand on est ensemble, ils nous disent que les stocks de la Sosumo sont pleins en quantité suffisante comme d'habitude, mais au niveau du marché, on ne parvient pas à comprendre.
Pour ce père de 5 enfants qui travaille tout près de la sucrerie de Kumoso, Sosumo en sigle, au sud du Burundi, il se dit consterné par cette rareté de sucre au Burundi. André Harerimana, architecte.
Ça nous rend une vie difficile puisque nous sommes obligés de chercher partout. Même moi, je travaille dans la région de Mosso, auprès de la sucrerie. Là aussi, je ne trouve pas. Au moins pour pouvoir provisionner ma famille. Quand je trouve même 1 kilo, même 2 kilos, 3 kilos, et c'est conditionnel, je dois acheter quelque chose pour avoir ça, ou je dois donner quelque chose à, pour bénéficier de ce produit, qui devient de plus en plus rare.
Du côté des autorités gouvernementales, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Atungimana, a dernièrement estimé que la mauvaise gestion du sucre favorise les spéculations. Le directeur général de la société sucrée de Kumoso affirme, quant à lui, que sa société n'a pas de souci de production du sucre, mais que l'administration doit contrôler le système de vente. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Depuis plusieurs années, les scientifiques alertent les décideurs et l'opinion publique sur le changement climatique et ses effets sur l'environnement et la quantité de vie des populations. En plus de sonner l'alerte, ils travaillent à proposer des solutions contre ce phénomène. Parmi ces experts, il y a l'océanographe camerounaise Babette Christelle Chonang, récemment recrutée par la NASA, l'agence spatiale américaine. Elle étudie l'analyse et la prévision océanique à partir d'un satellite révolutionnaire appelé SWOT, S-W-O-T, et nous en dit plus au micro de Mohamedou Oumfa.
Babette Christelle Chonong, j'ai 28 ans. J'ai une licence en physique mathématique obtenue à l'université de Chang. J'ai fait ma première année de master à l'université de Yaoundé en physique de l'environnement. Après, j'ai obtenu une bourse pour le Bénin pour faire un master en océanographie. J'ai obtenu également une autre bourse pour faire un post-master en Allemagne. Et après ce post-master, j'ai également obtenu ma bourse pour faire mon doctorat en France.
Vous êtes spécialiste en océanographie. En quoi consiste cette discipline et quel est son intérêt pour la société?
L'océanographie, c'est la science qui étudie les océans. Moi, je suis plus concentrée sur la partie physique, donc je suis océanographe physicienne. Cela consiste à étudier les mouvements de l'eau, les courants marins, la hauteur du niveau de la mer, ainsi de suite. Déjà, il faut savoir que l'océan recouvre 2/3 de la surface de la Terre. Donc nous dépendons tous de l'océan pour la nourriture, le transport, la régularisation du climat.
Vous avez rejoint un laboratoire de l'agence spatiale américaine NASA. Il s'agit de la Jet Propulsion Laboratory. D'abord, c'est quoi ce laboratoire?
NASA Jet Propulsion Laboratory est un centre de recherche et de développement financé par le gouvernement fédéral et géré pour la NASA par California Institute of Technology. NASA JPL a contribué à ouvrir l'air spatial en développant le premier satellite scientifique américain en orbite autour de la Terre, en créant également le premier vaisseau spatial interplanétaire réussi et en envoyant des missions robotiques dans le système solaire.
En quoi consistera exactement votre travail?
Pendant ma thèse, j'ai travaillé sur le satellite SWOT, Surface Water Ocean Topography, qui est le tout premier satellite qui va permettre la mesure de l'océan en 2 dimensions. Donc j'ai travaillé sur ce satellite-là en regardant son impact, sa contribution sur l'analyse et la prévision océanique via la méthode d'assimilation de données. Vu que le satellite n'a pas encore été lancé, il sera d'ailleurs lancé cette année, par la grâce de Dieu, on espère bien. Le satellite qui ont existé jusqu'à aujourd'hui sont limités. On ne peut résoudre que les échelles supérieures à 200 km dans l'océan. Or, c'est en dessous de 200 km que la chose est très intéressante.
À terme, qu'est-ce que le fruit de votre travail peut apporter à la société en général?
Ce que nous faisons aujourd'hui en tant que scientifiques, c'est de donner des indicateurs, des paramètres clés, et c'est maintenant autour de nos décideurs, autour de la population, de chacun à son niveau, de travailler pour que ce changement climatique puisse s'arrêter ou encore puisse ne plus progresser. Donc ça passe par la limitation des rejets de CO2 dans l'espace, la limitation de l'utilisation des pesticides, le fait de ne plus jeter les objets plastiques et d'utiliser les matériaux recyclables.
L'océanographe camerounaise Babette Christelle Chonang, récemment recrutée par la NASA, l'agence spatiale américaine. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Manilakis a été à la présentation et Sylvain Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr.
Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.